France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, le Bataclan, les terrasses de l'Est parisien, le Stade de France. On a encore tous ces attentats en mémoire, 130 morts, c'était il y a 4 ans. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter et vous proposez 13 novembre l'enquête, un tout nouveau podcast natif que les auditeurs peuvent d'ores et déjà télécharger sur franceinter.fr ou sur l'application Radio France. Il y a eu combien? Des centaines de reportages réalisés ici à France Inter et dans toutes les rédactions. Des articles, des enquêtes, des livres. Et pourtant, et vous le prouvez au travers de ces 9 épisodes, il y a encore des choses à découvrir ou à redécouvrir. Alors peut-être pas pour vous, hein, qui avez baigné dedans pendant plusieurs années, mais moi j'ai appris plein de choses dans ce podcast.
En tout cas, l'intérêt pour moi, qui effectivement avec mes collègues à France Inter, comme ailleurs, on a sorti plein d'infos au fur et à mesure. L'intérêt, c'était vraiment 4 ans après de remettre tout ça bout à bout, d'offrir aussi un peu une mise en perspective 4 ans après. On peut commencer à faire le tri et à reconstituer le parcours des terroristes entre Paris et Raqqa, à comprendre vraiment la genèse de ces attentats. Et moi, j'avais envie de profiter du long format qui était offert par ces nouveaux podcasts natifs de France Inter pour essayer de faire ce travail-là.
Oui, parce qu'il y en a des choses à dire hein, sur ces 4 années d'enquête sur ces attentats. Comment avez-vous choisi de la raconter, cette histoire? Quel découpage vous avez-vous fait? Je le dis, il y a 9 épisodes.
Hein. Alors, j'ai évidemment beaucoup erré. Finalement, comme d'habitude, il faut toujours revenir à la chronologie. Donc moi, je suis partie. Alors, l'épisode 1, c'est un triste rappel de cette soirée, parce qu'il faut quand même resituer les personnages, réexpliquer avec effectivement aussi le temps de l'enquête qui a consolidé les choses, qui était où, qui a fait quoi. Maintenant, c'est un peu plus, c'est quand même beaucoup plus clair.
Et là, il y a d'ailleurs dans ce premier épisode plus de témoignages que d'infos. Les infos, elles sont plutôt dans les autres épisodes. Là, il tient beaucoup cet épisode par des témoignages qui sont très poignants pour certains.
Oui, alors je sais qu'en plus pour certaines personnes, c'est toujours difficile hein, de se replonger dans cette soirée. Et puis après, alors moi, je m'intéresse justement aux hommes qui étaient dans Paris ce soir-là. Ces 10 hommes, ils ont entre 20 et 31 ans. Ils ont pour la plupart grandi en France et en Belgique. Certains étaient des petits délinquants, d'autres pas. Certains ont été en échec scolaire, d'autres pas. Et puis, à l'exception d'un d'entre eux, hein, Salah Abdeslam, d'ailleurs le seul qui semble avoir renoncé, ils sont tous partis en Syrie. Certains pour des courts séjours et assez tardivement. D'autres ont fait partie de cette grande vague de départ de 2013-2014, c'est-à-dire qu'ils ont vécu tout le processus d'intégration au sein du groupe État islamique. Ils ont combattu, ils ont commis des exactions. Après, ils ont intégré les services de sécurité de l'organisation terroriste qui fournit à la fois les geôliers pour détenir les otages occidentaux. Il y a le témoignage de Nicolas Hénin qui est aussi très important dans ce podcast. Et puis d'autres vont ensuite, servir de vivier de Camille pour aller faire ces attentats en France. Il y a une cellule au sein de l'État islamique, on l'a compris après, qui préparait ces attentats et au sein de laquelle on retrouve encore des Français, des Belges, mais cette fois plus expérimentés, des vétérans du djihad. Et c'est quand même aussi, c'était ça aussi mon fil conducteur, c'est de voir si nos deux pays ont quand même été autant frappés en 2015, c'est à cause de l'importance quand même de ce contingent français et belge, à la fois parmi les jeunes combattants et quand même a aussi des postes assez élevés au sein de l'organisation terroriste.
Oui, indispensable hein, ce détour par la Syrie et ces quelques années avant les attentats pour comprendre les racines de ces attentats et pour comprendre aussi cette ramification. Vous parlez dans vos podcasts de Mohamed Merah qui en inspire certains, vous parlez du groupe des Buttes Chaumont, vous parlez de Bruxelles. Effectivement, on a entendu parler de toutes ces choses-là et là ce qui est bien c'est que ça remet les choses au clair un peu, on comprend mieux comment tout ça s'imbrique.
Ah oui, il y a beaucoup de liens effectivement. Oui, c'est effectivement tout est lié et le format long permet de réexpliquer sans faire des liens trop caricaturaux non plus, mais d'expliquer comment les choses s'imbriquent.
Et comment ça se termine, le 9e épisode?
Le 9e épisode, il y a tellement de choses à dire évidemment. On dit un mot quand même de l'état de l'organisation terroriste aujourd'hui. On sait qu'elle a perdu beaucoup de terrain, mais qu'elle a essaimé dans plein de pays, que la menace n'a pas disparu. Là, l'histoire n'est pas terminée, donc le podcast ne peut évidemment pas se terminer là-dessus. Nous, on ouvre vers le procès qui devrait se tenir à Paris en 2021, avec moi trois futurs leurs accusés certainement qui m'intéressent particulièrement parce que ce sont ceux, en fait, ce qui est très dur aussi, c'est de se plonger un petit peu dans la tête de ces jeunes qui ont grandi en France et en Belgique et dont la seule perspective semble d'être de donner la mort et de se donner la mort. Et parmi ceux-là, il y en a quand même trois qui ont renoncé, visiblement, un à Paris, deux à Bruxelles, donc ils peuvent à la fois raconter beaucoup de choses sur la préparation des attentats et puis nous faire comprendre aussi quels ont été leur ressort intime à ce moment-là. J'ai assez peu d'espoir, honnêtement, qu'ils parlent, mais c'est le dernier espoir qu'on peut avoir pour cette perspective du grand procès des attentats du 13 novembre.
Il a été difficile à faire ce podcast, d'abord parce que vous le disiez, c'est pas une affaire jugée, donc il y a encore des parties secrètes.
Ah ben c'est sûr que j'ai eu beaucoup de refus d'interview, hein. Secret de l'instruction, secret défense, c'est à la fois 4 ans après, donc on peut prendre du recul, et c'est encore pour certains trop sensible, trop délicat, surtout que la justice n'est pas encore passée, donc c'est vrai que voilà, j'ai eu pas mal de refus d'interview.
Il y aura peut-être une saison 2 alors.
Mais j'espère. Il y a aussi des gens que j'aurais aimé interviewer qui sont en prison, qui quand ils sortiront auront peut-être des choses à dire. Donc oui, s'il y a des témoignages qui se débloque, peut-être qu'on pourra faire une saison 2.
Vous l'avez dit, le podcast, ce que ça apporte de plus par rapport aux autres supports notamment, c'est ce temps long, ce rythme un peu plus lent. Il y a aussi autre chose, on parle à la première personne, c'était compliqué cet exercice quand on n'a pas l'habitude.
C'était très difficile, c'est effectivement le style qui s'est imposé dans le podcast où certains sont emparés des podcasts pour raconter des choses assez intimes. Là, ce n'est pas le cas, c'est quand même une façon de s'adresser à l'auditeur en expliquant bien d'où on parle, en essayant d'expliquer parfois comment on a travaillé, ou ça permet aussi là de nuance. Voilà, je vous dis ça, mais en fait, on n'en est pas sûr parce que il y a des éléments ici qui vont dans telle direction, d'autres. Voilà, c'est une autre façon de s'adresser à l'auditeur et effectivement pour les journalistes de l'actualité.
De dire
que nous sommes,
c'est
pas du tout dans nos habitudes.
13 novembre, l'enquête, c'est le nom de votre podcast, Sarah Guibaudeau, qui est disponible tout de suite. On a vérifié sur l'application, sur le site internet. On peut télécharger les 9 épisodes d'un coup. Merci beaucoup d'être venu, c'est pas
mal. Merci.